VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 22 août 2022, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Pour commencer, les titres. Au Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, désigné premier ministre par intérim. En Guinée, l'Onseni Camara, un ancien ministre écroué sous la junte, meurt après une détérioration de son état de santé en prison. En République démocratique du Congo, les défenseurs de l'environnement opposés au pétrole se disent menacés. En Somalie, 21 morts dans l'attaque d'un hôtel à Mogadiscio. Appel des dirigeants occidentaux à la retenue autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia, occupée par l'armée russe. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Absent depuis plus d'une semaine pour cause de repos forcé, comme annoncé par le gouvernement malien, le premier ministre Choguel Kokala Maïga vient d'être momentanément remplacé par le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga. Davantage de détails avec notre correspondant Mohamed Danyoko.
C'est au journal télévisé de 20h que le secrétaire général de la présidence de la République a fait l'annonce. Il a lu un décret stipulant que le premier ministre intérimaire sera le ministre de l'administration territoriale Abdoulaye Maïga, également porte-parole du gouvernement. À noter que depuis plus d'une semaine, le gouvernement avait annoncé la mise au repos forcé du premier ministre Choguel Kokala Maïga par son médecin. Aussitôt la nouvelle annoncée, sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont souhaité prompt rétablissement au premier ministre, faisant écho aux partis politiques Adema PASJ qui avait déjà, dans un communiqué, parlé de maladie du PM. Même si le gouvernement ne l'a pas encore dit officiellement, ici, nombreux sont ceux qui croient que le premier ministre Choguel Kokala Maïga, plus qu'un simple repos, est véritablement malade. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
En Guinée, un ancien ministre écroué depuis un an est décédé samedi après une détérioration de son état de santé en prison. Il avait été mis en cause pour malversation financière présumée et écroué sous la junte militaire qui a renversé l'ancien président Alpha Condé en septembre 2021. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'Onseni Camara, 62 ans, a succombé samedi soir à l'hôpital après un accident vasculaire cérébral vendredi en détention à la prison de Conakry. Les appels pressants de sa famille auprès de la Cour spéciale pour les infractions financières pour qu'il soit évacué vers l'étranger sont restés sans suite, a déclaré son frère Ibrahima Camara dans la nuit. L'Onseni Camara avait déjà été admis aux urgences début mai, quelques jours après son incarcération. Le ministre de la Justice Charles Alphonse Wright a écrit dans un communiqué que depuis le mois de mai, l'Onseni Camara recevait les soins nécessaires au service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Conakry. Il a présenté ses sincères condoléances à la famille et lui a rappelé son droit d'inhumation du défunt. Ancien ministre de l'urbanisme puis du tourisme, ancien député, ancien président de la commission électorale, l'Onseni Camara avait été inculpé et écroué le 28 avril pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption. Il faisait partie des nombreux anciens ministres et autres personnalités en poste sous Alpha Condé à avoir été mis en cause pour malversation financière présumée et écrouée. Feu Lounseni Camara était aussi un membre éminent du RPG, le Rassemblement du Peuple de Guinée, le parti d'Alpha Condé.
Des organisations de défense de l'environnement, dont Greenpeace Afrique, Rainforest Foundation, le Réseau pour la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers, se disent victimes de menaces directes en RDC. Ces menaces seraient dues, selon elles, à leur opposition à la vente aux enchères de blocs pétroliers en République démocratique du Congo. Il y a 3 semaines, des appels d'offres ont été lancé par le gouvernement pour 27 blocs pétroliers et 3 gaziers tout en promettant de veiller au respect des normes environnementales. Mais les ONG déplorent dans leur communiqué des déclarations de certains ministres qui ont attisé les flammes et elles ont exigé des autorités un discours plus tolérant ainsi que des mesures pour protéger les droits des défenseurs de l'environnement. Une dizaine d'organisations de la diaspora algérienne exhortent dans une lettre ouverte le président français Emmanuel Macron à ne pas occulter lors de sa visite en Algérie la question de la dégradation des droits humains et à ne pas cautionner ce qu'elle qualifie de dérive du régime algérien. Le point avec Abdourahman Dia.
Ces organisations disent espérer que cette visite sera fructueuse pour les deux pays, fortement liés par l'histoire, la géographie, la culture, la langue et tous les échanges et partenariats tissés depuis l'indépendance, déclare-t-elle dans la lettre ouverte. Monsieur le Président, il est néanmoins un sujet grave qui ne doit pas être occulté lors de cette visite, celui de l'état actuel des droits humains en Algérie. Ces organisations dénoncent près de 10 000 arrestations suivies d'au moins un millier de détention provisoire abusive en violation du code pénal. La réponse des autorités algériennes aux aspirations populaires a été une politique répressive pour réduire au silence les populations en situation de rupture avec les tenants du système politique en place, selon la lettre. Elle note que la diaspora algérienne n'est pas épargnée en raison de son implication et de son soutien massif et continu au mouvement populaire. Le président français se rendra de jeudi à samedi en visite officielle en Algérie. Paris et Alger espèrent tourner la page d'une série de malentendus et tensions en octobre 2021 après des propos du président français sur le système politico-militaire algérien et la nation algérienne.
Le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, est arrivé au Soudan samedi soir pour une visite prévue jusqu'au 25 août. Le pays est toujours en proie à des troubles depuis l'éviction en 2019 de l'ex-président Omar el-Bashir, accusé de génocide au Darfour par la CPI. Le point avec Michel Joseph.
Karim Khan rencontrera des responsables soudanais et se rendra dans la région du Darfour. Cette vaste région de l'ouest du Soudan a été ravagée par une guerre civile qui a débuté en 2003 entre le régime à majorité arabe de Omar al-Bashir et les insurgés issus de minorités ethniques qui dénonçaient des discriminations. Monsieur Bashir avait envoyé la milice armée des Janjaweeds pour mater la rébellion. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, tout comme d'autres figures de l'ancien régime, pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. La visite de Karim Khan cette année est la troisième d'un procureur de la CPI au Soudan depuis l'éviction en 2019 de l'ex-président Omar al-Bashir. Le prédécesseur de M. Khan, Fatou Ben Souda, avait tenu des pourparlers au Soudan en mai 2021, ouvrant la voie à un procès à la Haye des anciens dirigeants pour crimes de guerre. De nombreuses armes circulent encore au Darfour, qui reste englué dans les violences, malgré un accord conclu en 2020 entre les autorités à Khartoum et les principaux groupes rebelles, dont ceux du Darfour. Depuis, des chefs rebelles repentis ont rejoint le gouvernement.
Au moins 21 civils ont péri et 117 autres personnes ont été blessées dans l'attaque et le siège d'un hôtel de Mogadiscio par des combattants islamistes Shebab pendant 30 heures vendredi et samedi. Tous les assaillants sont morts. C'est ce qui ressort d'un nouveau bilan officiel dimanche, tandis que les recherches pour retrouver des disparus se poursuivent.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants américains, français, allemands et britanniques ont appelé hier à la retenue autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia. C'est la plus grande d'Europe occupée par l'armée russe depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Le point avec Eric Manirakidza.
Les présidents Joe Biden et Emmanuel Macron, le chancelier Olaf Scholz et le premier ministre Boris Johnson ont demandé lors de leurs entretiens hier l'envoi rapide à Zaporizhzhia d'une mission des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, indique le porte-parole de M. Scholz. Les quatre dirigeants occidentaux ont également convenu que le soutien à l'Ukraine dans sa défense contre l'agression russe va être maintenu. Vendredi, la présidence française a affirmé que le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, avait accepté que les inspecteurs de l'AIEA fassent une visite d'inspection à la centrale. La recrudescence des combats autour de cette centrale nucléaire du sud de l'Ukraine a fait ressurgir le spectre d'une catastrophe pire que celle de Tchernobyl. Les deux belligérants se rejettent mutuellement la responsabilité des attaques.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Togo, 6 jours après avoir annoncé la fin des subventions des prix des bouteilles de gaz domestiques, le gouvernement a annoncé de nouveaux prix légèrement en baisse. À l'appel des associations de consommateurs et pour soulager les ménages, la bouteille de 6 kilos est désormais à 4 740 francs CFA contre 5 352 sans subvention et celle de 12 kilos à 9 875 francs CFA contre plus de 11 150 francs CFA hors subvention. La start-up kenyano-suédoise Rome Motors et M-Copa, une plateforme africaine de financement d'actifs connectés, ont signé un partenariat afin de déployer des motos électriques à des prix abordables et à crédit en Afrique. Les premières motos seront livrées fin 2022. Rome est sur le marché de la voiture et des motos électriques depuis quelques années et possède un programme pilote dans plusieurs pays d'Afrique centrale, dont la RDC. En Côte d'Ivoire, le port autonome d'Abidjan a réceptionné 6 portiques de nouvelle génération pour équiper son 2e terminal à conteneurs qui devrait être opérationnel fin 2022. Ces portiques sont les plus grands d'Afrique actuellement et peuvent prendre des conteneurs sur une extension de 50 mètres. Ce nouveau terminal pourra désormais accueillir des navires de 14 000 conteneurs contre seulement 3 500 actuellement.
Merci Claire. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer avec les qualifications pour la 2e édition de la Ligue des Champions féminines.
Oui, et ça se joue dans chaque zone de développement. Et 4 clubs ont déjà validé leur qualification pour la phase finale prévue entre octobre et novembre au Maroc. Au sud, zone COSAFA, on aura 2 équipes, les Zambiennes de Green Buffaloes et les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns. Les Égyptiennes de Wadi Degla, vainqueurs 2-0 des Tunisiennes de l'AS Bank, prennent le ticket de la zone nord UNAF. Et puis, les Libériennes de Determine Girls représenteront l'UFOAA après avoir battu 1-0 les Sénégalaises de l'USPA.
Les qualifications se poursuivent dans les autres zones.
Et on reste à l'ouest, mais dans la zone B, où on n'est qu'à la première journée des matchs de poule. Belle entame des Ivoiriennes d'Africa Sport. Facile vainqueur 5-0 des Nigériennes de l'AS Police. Même score en faveur des Nigériennes de Baelsa qui affrontaient les Togolaises d'Atleta. Victoire d'entrée également pour les Ghanéennes d'Ampem Darkoa Ladies 3-0 face au Burkinabé de l'USFA. À l'est, dans la zone CECAFA, il était question de la 3e journée des matchs de poule. Et les Éthiopiennes de Commercial Bank, victorieuses 2-0 des Rwandaises de l'AS Kigali, se sont qualifiées pour les demi-finales. De même pour les Burundaises de Fofila, qui ont pris le dessus sur les Warriors Queens de Zanzibar.
Football toujours, le Maroc tient son nouveau sélectionneur.
Tout à fait. Et près de 2 semaines après avoir limogé Vahid Ali Lozic, la Fédération Royale va bien nommer Walid Regragui à la tête des Lions de l'Atlas. Il va donc signer un contrat de 3 ans selon plusieurs médias locaux. Âgé de 46 ans, l'ancien entraîneur du Wydad de Casablanca, avec qui il a remporté la dernière Ligue africaine des champions, débutera donc sa première expérience en tant que sélectionneur à 3 mois de la Coupe du Monde au Qatar. Les anciens internationaux Rachid Benhamoun et Garib Amzine pourraient compléter son effectif.
Au Bénin, Mathurin de Chacus est reconduit à la tête de la fédération.
C'est à l'issue de l'Assemblée générale élective de la FBF qui s'est tenue au siège de l'institution à Porte-Novo. Les délégués présents ont renouvelé leur confiance à l'unanimité à l'unique liste en compétition conduite par le président sortant et candidat à sa proche succession. Cette élection, qui a connu la présence de plusieurs invités de MAC, a également permis aux délégués d'élever les anciens présidents de la fédération au rang de président d'honneur.
Handball à présent et début de la CAN masculine junior au Rwanda.
Exactement Idrissa, un 29e championnat mal engagé pour le pays hôte, battu par l'Angola 20-43. Le Congo aussi perd, mais de justesse 30-31 devant l'Algérie. Et puis l'Égypte démarre fort en pulvérisant la Libye score 40-23. Place à la 2e journée aujourd'hui avec 4 matchs. Angola-Tunisie, Libye-Algérie, Égypte-Congo et Maroc-Rwanda.
Élisée Oumpatine, merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le gouvernement a augmenté depuis vendredi les prix des hydrocarbures, une augmentation de 35 francs CFA sur le litre du Super 91 et de 30 francs CFA sur celui du gasoil. Les populations disent ne plus pouvoir tenir. Les organisations de défense des droits des consommateurs estiment que c'est une décision inattendue, unilatérale, inexplicable et insoutenable du gouvernement. Elle menace des actions sur le terrain. Le gouvernement maintient qu'il n'avait pas le choix. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Au grand marché de Ouagadougou, marché de taxi, les chauffeurs et autres conducteurs se réveillent ce matin et doivent faire face à la hausse des prix des hydrocarbures. 35 francs CFA sur le litre du Super 91 et 30 francs CFA sur celui du gasoil. Ainsi, le Super 91 passera de 715 francs CFA à 750 francs CFA et le gasoil de 645 francs CFA à 675 francs CFA. Leur mécontentement est visible.
La première augmentation, là même, nous, on a souffert. Malgré ça, là, nous, on n'a rien augmenté. On a laissé les 300 francs, prendre les gens à 300 francs. Présentement, là, vraiment, c'est trop. 175 francs, là, c'est trop pour nous. Le gasoil, là, et puis, il n'y a pas de clients. Voilà. Ce qu'on peut leur demander seulement, de voir notre cas, s'ils peuvent diminuer, là, de diminuer. Sinon, nous, on travaille avec le gasoil, avec de l'essence. Si ça augmente là, les prix là vont se répercuter sur le transport. Les clients là vont payer cher. Voilà, tout va augmenter aussi. Voilà.
Il y aura des concertations entre nous pour voir ce qu'on va faire pour pouvoir voir et ajuster le prix du taxi. Sinon, on ne peut pas rouler à 300 francs dans ces conditions-là. Parce que vous-même, vous voyez, si on doit entretenir le véhicule, si on doit s'entretenir nous-mêmes et faire face même à la rentrée scolaire qui vient.
Abdoulaye Tall, ministre du Commerce, reçu sur le plateau de la télévision nationale, justifie l'augmentation.
Les prix à l'international ont augmenté, tenant compte de la situation. Et au niveau des prix des hydrocarbures, il y a deux variables. Il y a le prix du baril lui-même, mais il y a le cours du dollar, parce que le carburant est coté en dollars. Et malheureusement, le dollar aussi a augmenté. Et donc, cette augmentation vise à réduire légèrement le niveau de subvention pour alléger un peu la situation qui, malgré tout, reste tendue.
C'est une décision inattendue, unilatérale, inexplicable et insoutenable.
Adama Bayala, président du RENCOF, le réseau national des consommateurs du Faso, annonce une riposte suite à cette augmentation.
D'autant plus que les présentes autorités s'étaient mis en devoir de libérer le peuple burkinabé en l'espace de 3 mois. Une augmentation de 135 francs sur les prix des produits des hydrocarbures. Augmentation des plus importantes d'Afrique de l'Ouest. Nous avons déjà entrepris de nous organiser. Dans un cadre harmonisé, dynamique, nous allons donner la mesure de la riposte aux autorités gouvernementales.
Le gouvernement affirme qu'il continue de subventionner le carburant. Sans cette subvention, l'essence sera vendue à 750 au lieu de 1114 francs CFA et le diesel 675 au lieu de 1252 francs CFA. Aussi, le gouvernement dit mener des concertations avec les acteurs pour éviter une éventuelle flambée des prix des produits de grande consommation. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, de nombreux enfants souffrant d'infirmités motrices cérébrales, d'handicap visuel ou moteur, d'autisme ou encore de surdité sont encore exclus du système scolaire. Leur prise en charge dans les écoles spécialisées est onéreuse, atteignant plus de 930 dollars par an, soit près de 600 000 francs CFA. En prélude à la prochaine rentrée scolaire, des associations et le gouvernement se mobilisent pour relever les défis que pose l'éducation de cette catégorie d'enfants. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Carla, 13 ans, et Davila, 8 ans, sont atteintes d'une infirmité motrice cérébrale. Suzanne, un agent de développement inclusif à base communautaire, sensibilise leurs parents pour leur retour à l'école. Véronique Eloga est parent d'enfant à besoins spéciaux.
Moi-même, je ne voulais pas vu son handicap. Et ce n'était pas facile de l'amener à l'école parce qu'elle n'avait pas une chaise, quoi. Quand j'ai commencé à l'amener à l'école, la sœur lui a offert une chaise. Ça m'a encouragée.
Arrière Ducam est la grand-mère de la petite Davila.
La pension aussi n'est pas facile au niveau des enfants comme ça. Après mon handicap, les 3 ans qu'elle a fait là-bas, je paye 100 000 par an. Elle est éveillée, elle essaye de gribouiller.
Comme handicap a en son sein une école inclusive du cycle maternel et primaire, située dans le 4e arrondissement à Yaoundé. Claude-François Kamen est le coordonnateur du Centre Cameroun Cluster Programme.
En dehors du CBM, il y a d'autres partenaires qui font quand même des dons, qui envoient des subventions. C'est pas beaucoup, mais ça permet de recevoir un nombre minimal d'enfants dans notre école. Mais le problème encore, c'est que parfois même, il y a des parents qui reçoivent cet appui, mais ne font pas un effort à leur niveau.
Le combat en faveur de l'accès à l'éducation d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale est l'un des objectifs que s'est assigné Flore Gassa. Elle a créé une association de parents d'enfants IMC.
Le gouvernement a encore beaucoup de travail à faire, mais ce qui a commencé, ça, il ne faut pas le cacher, est appréciable. Sinon, le nombre d'enfants infirmes motrices cérébrales sont nombreux encore dans les maisons. Quand on essaye de les amener à l'école, la majorité des enseignants, même s'ils sont formés, beaucoup n'appréhende pas encore bien ce type d'enfant-là.
Coco Bertin, un handicapé visuel, est le promoteur du Centre national de l'inclusion. Des bénévoles comme Elodie, une Française, y travaillent à l'adaptation des livres scolaires en braille pour les enfants malvoyants, pendant que le personnel enseignant de l'école se fait recycler avant la rentrée scolaire. Coco Bertin, directeur général du CEJAC.
Tout cela nécessite une bonne préparation de l'enseignant. Donc nous leur offrons des formations, nous renforçons leurs capacités, nous faisons venir des spécialistes qui vont les entretenir de manière à ce que chaque enseignant sache exactement ce qui est attendu de lui tout au long de l'année scolaire.
Depuis 2015, le gouvernement a créé 70 écoles publiques inclusives pour les enfants à besoins spécifiques. Il a aussi mis sur pied un programme de soutien financier à l'éducation inclusive des enfants vulnérables. Emmanuel Juntap, Yaoundé, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme a connu une baisse de 7,2% selon les dernières statistiques pour avoisiner moins de 40%. La Direction générale de l'alphabétisation mène des campagnes pour accroître le nombre des centres d'apprentissage pour réduire le taux d'adultes analphabètes. Un reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Formateur et promoteur des centres pour le renforcement des métiers, Amane Assa définit d'abord ce qu'est un analphabète.
Ici, nous pouvons circoncire la définition de l'analphabète comme une personne ne sachant ni lire, ni écrire, ni calculer.
Cette jeune fille, Sophie, à peine 20 ans, partie faire ses emplettes dans le supermarché de l'un des quartiers chics d'Abidjan, raconte sa mésaventure.
Comme ils n'avaient pas lu, ils ne savaient pas que j'ai écrit, entré, je suis rentré par la sortie, j'ai marché.
Bon nombre de personnes ne sachant ni lire ni écrire ont décidé de s'inscrire dans un centre d'apprentissage. Aminata Koulibaly, avec son bébé de 7 mois sur le dos, se rend en classe 3 fois par semaine tous les après-midi dans un centre à Adjamé 220 logements.
Ça va me permettre d'aider mon enfant à faire des exercices à la maison. Ça va m'aider à lire la notice des médicaments pour les donner.
C'est une source d'inspiration et de motivation pour d'autres.
Aujourd'hui, je suis au CP2. On me donne papier. Je regarde mes essais, ce qui est écrit. Vraiment, ça m'a aidé.
Je suis venue apprendre à lire et écrire. Et j'encourage aussi mes soeurs à faire comme moi.
Pour Madame Joséphine Kouadjou, présidente des centres d'alphabétisation de Cocody, la lecture est liée au symbole du milieu naturel, donc les techniques sont adaptées à la situation des apprenants.
On vous met devant les 4 éléments du milieu naturel qui est le pilon, le citron, la calebasse et le grain de maïs. Et c'est avec ça qu'on forme les lettres de l'alphabet, les 26 lettres. Et c'est avec ça qu'on fait les 10 chiffres, de 0 à 9. Mais à partir du niveau 3, on utilise les livres de l'école formelle.
De retour à Djamé, 220 logements dans une salle de classe de 20 apprenants, le formateur Joseph Okonan donne ses cours.
En haut, il a le I. Vous allez en mathématiques. Mais pour nous, en écrivant les 8, nous faisons uniquement que des citrons superposés.
Il n'y a pas que les femmes qui veulent apprendre, car les hommes aussi font partie du lot et témoignent.
Je m'appelle Konaté Mohamed, je fais la mécanique. Je sais lire maintenant et calculer les noms des pièces, je sais bien écrire. Un vélo, on écrit U, N. Et puis V, E, L, O.
Mama Ouattara, directrice de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, donne ce conseil.
C'est la volonté qui doit demeurer pour que les gens puissent aller apprendre à écrire.
Et le gouvernement ivoirien s'est engagé à réduire le taux de l'analphabétisme à 20% d'ici à 2024. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, une cinquantaine de corps non identifiés de la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec ont été inhumés par une association de bénévoles. Si l'hôpital a fermé ses portes le 15 août dernier pour être reconstruit, ces corps, communément appelés « morts inconnus », y étaient depuis quelques mois, voire plusieurs années. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagay.
Au cimetière musulman de Yoff, à Dakar, des centaines de personnes progressent vers la sortie après avoir participé à l'inhumation des morts inconnus organisée par l'Association pour la perfection et la miséricorde. Cette entité bénévole fait ce genre d'activité depuis 10 ans, mais cette année, la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec a surmédiatisé l'événement. Lamine Mané, bénévole.
Nous avons récupéré 58 corps de l'hôpital de la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec. Il y a 22 corps adultes et 36 bébés. Donc nous sommes à 10 ans d'activité. Nous avons démarré nos activités le 1er avril 2012 et nous sommes à 1209 corps enterrés à la date d'aujourd'hui.
Malgré la volonté de ses membres, l'association de bénévoles fait face à des difficultés pour prendre en charge les corps non identifiés laissés dans les morgues des hôpitaux du Sénégal, comme l'indique Lamine Mané.
Donc, vous avez, aujourd'hui nous avons 58 corps, vous imaginez combien de corps bien nous aurons besoin. C'est ça le point le plus important, c'est-à-dire le moins qui nous manque le plus, c'est en termes de corbillard. Mais néanmoins, avec tous les moyens que nous avons, et nous avons l'expérience aussi de pouvoir faire ce travail-là, du moment que nous travaillons depuis 10 ans. Donc nous avons aussi les compétences et la volonté et le courage. Donc nous lançons un appel à toute la population sénégalaise, et avant tout aussi remercier toute la population sénégalaise, parce que tous les moyens que nous utilisons aujourd'hui, c'est des moyens donnés par la population sénégalaise, d'ici et de la diaspora.
Même si les contributions ne sont pas encore au niveau attendu, les Sénégalais soutiennent l'initiative. Pape Tchaou quitte chaque année la ville de Lyon en France pour venir participer à l'événement. Pour cette édition, il a décidé de demander la contribution des compatriotes établis en France.
L'idée m'est venue de partager ça avec toutes les personnes qui me connaissent pour qu'on puisse au moins chaque fois faire des aides par rapport aux morts inconnus. Parce que je me dis que dans ma tête que chacun peut se trouver dans la même situation que les morts inconnus. Parce qu'on peut sortir, oublier nos pièces et là, si on est mort, on ne peut pas nous identifier, on se retrouve ici. Donc je me dis que tout ce qu'on fait ici, on le fait pour notre propre famille et pour nous personnellement.
Avec à son actif 10 ans de bénévolat pour plus de 1200 corps inhumés, l'Association pour la perfection et la miséricorde permet aux hôpitaux de se libérer des corps non identifiés en souffrance dans les morgues. Toujours à la recherche de moyens conséquents, la structure de bénévoles bénéficie pour le moment de l'appui permanent de certains Sénégalais et de celui de la Première Dame du Sénégal qui leur a offert 3 corbillards. Sedina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia au micro, Lionel Gahima à la mise en onde et à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.